Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Loz Actuali. Bonjour à mes chers camarades. Ah bah voilà, je me suis planté, ça faisait longtemps, et voilà, hein, avec les vacances, on fait n'importe quoi. Bonjour mes chers camarades, bonjour Eric, bonjour Bastien.
Bonjour. Salut les gens.
Ah, bah voilà, Bastien, on n'entend pas non plus, voilà, tout va bien. On va réparer tout ça, ça va mieux marcher après. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va parler des Co-CD Cévennes avec Alain Argilier et Morgane Costemar de l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. Voilà, Morgane, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Voilà, tu es la directrice de cette entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. Et Alain, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Qui est donc Alain, chargé de communication et du tourisme. Voilà, c'est ça. Hein,
c'est bien ça.
Bon, voilà, donc tout de suite après, on va maintenant commencer avec vous. Alors peut-être juste faire le programme du jour, hein, parce que c'est un peu le bazar aujourd'hui. Eric, tu vas nous parler de quoi ?
De lecture.
Très bien. Moi, je vous parlerai de création sonore. Sur la rubrique hashtag, Bastien, tu nous parleras de quoi ?
Alors, la rubrique hashtag, ça sera le hashtag BoardBox Challenge. Je vais parler également de l'hashtag First Antisemist Experience. Et puis, un petit hashtag également qui se concerne un œuf.
Ah, voilà. Et puis, il y aura bien sûr la revue de presse. Voilà, ça sera en fin d'émission. On commence donc tout de suite avec nos invités, Morgane Costemar et Alain Argilier. On va vous demander peut-être déjà de nous expliquer un petit peu donc à quoi sert cette entente départementale des Causses et des Cévennes, quelles sont ses missions tout ça, ça se passe dans la reconnaissance UNESCO des Causses et des Cévennes, c'est ça ?
Tout à fait. Donc l'entente interdépartementale, comme son nom le dit, c'est en fait une entente qui a été créée par quatre départements. Les quatre départements qui sont concernés par le territoire qui est aujourd'hui inscrit à l'UNESCO, les Causses et les Cévennes. Donc ça regroupe la Lozère, l'Aveyron, le Gard et l'Hérault. Donc c'est une structure qui a été créée en 2012 et qui est basée à Florac, en Lozère, où d'ailleurs on vient juste de déménager, on est encore un petit peu dans les cartons, puisqu'on vient d'acheter une maison de site UNESCO sur l'avenue Jean Monestier. Et ça va nous permettre d'accueillir aussi le public, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, pour justement expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux Causses et Cévennes, pourquoi il est inscrit au patrimoine mondial, qu'est-ce que ces paysages agro-pastaux. Voilà, donc amener un peu plus d'informations auprès des visiteurs et des habitants, bien entendu.
Justement, on peut faire un petit rappel, c'est quoi l'UNESCO ?
Alors l'UNESCO, donc il y a deux choses. En fait, il y a l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation non gouvernementale qui rassemble des pays. Aujourd'hui, il y en a 195 qui travaillent plutôt sur l'éducation. Il y a énormément de missions qui sont sur l'éducation, notamment dans les pays défavorisés. Et puis, il y a le patrimoine mondial qui est géré par l'UNESCO et qui, en fait, est une liste qui vise à inscrire des sites qui ont une valeur universelle, exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle la VUE. En fait, les sites qui ont une spécificité et qui regroupent une culture ou un art qui peut être partagé d'un point de vue mondial.
Voilà, au niveau international, il y a 1052 sites inscrits à ce jour. Et la France, c'est le quatrième pays où on a le plus de sites inscrits à l'UNESCO, avec 42 sites.
Voilà, donc on ne soupçonne pas toute cette richesse. Hein. Même nous, avant qu'on travaille là, on ne savait pas qu'il y en avait autant.
Et alors, qu'est-ce qui a valu la reconnaissance des Causses et des Cévennes ?
Alors, ce qui a valu la reconnaissance, c'est déjà qu'on a une culture, une agriculture particulière qui s'appelle l'agro-pastoralisme. Donc, pour faire court, c'est le fait, en fait, d'avoir une agriculture qui mixe le pastoralisme et l'agriculture, l'un ne pouvant vivre sans l'autre. Et ce qui est remarquable sur notre territoire, c'est qu'en fait, cette agriculture traditionnelle, elle est la même depuis le néolithique. elle a façonné les paysages et on a des paysages entièrement construits par du patrimoine vernaculaire, par l'action de l'homme. Et c'est ce qui a été reconnu par l'UNESCO.
Et puis aussi, il faut souligner le fait qu'on retrouve cette agriculture sur l'ensemble du bassin méditerranéen et qu'ici, sur ce petit territoire d'Écosse et Cévennes, on arrive à retrouver tout ce qui se fait en matière de pastoralisme sur le bassin méditerranéen.
Voilà, on a aussi bien des élevages sédentaires que transhumants, ovins, bovins, caprins. Donc toute cette richesse est condensée sur ce territoire-là.
Et comment ça se passe? C'est le territoire qui fait une demande pour rentrer à l'UNESCO ou c'est l'UNESCO qui fait des recherches?
Non, alors en fait c'est une candidature qui est déposée par le territoire. Donc nous à l'époque c'était une candidature qui était portée par surtout des hommes politiques qui étaient Jean Puech pour l'Aveyron, Jacques Blanc pour la Lozère qui se sont ensuite agrégés avec les autres départements. Et cette candidature est déposée au ministère français, soit au ministère de la Culture, soit au ministère de l'Environnement, selon la thématique. Et c'est le ministère qui décide ou pas si ce dossier, effectivement, ça vaut le coup de le présenter à l'UNESCO. Mais il faut savoir, c'est très long. Nous, la procédure a duré 11 ans. 11 ans, 7 dossiers réalisés, dont 3 qui sont passés à l'UNESCO. Voilà. Donc c'est une démarche difficile. Et on pense à nos homologues Nîmois qui sont justement qui ont été recalés cette année, mais voilà, on a envie de leur dire, ça fait partie du jeu. On sait qu'un site n'est plus jamais inscrit dès son premier passage. Les sites, ben, on est à plus de 1000. Il y a un niveau d'exigence qui est quand même important aujourd'hui. Donc voilà, faut pas perdre espoir et il faut représenter la copie 2 ou 3 fois pour être enfin accepté, quoi.
Il faut savoir aussi qu'en région Occitanie, on est la région de France où on a le plus de sites inscrits à l'UNESCO. Voilà, puisqu'on a 8 sites inscrits et bientôt 9 si Nîmes nous rejoint.
Et du coup, est-ce qu'il va avoir un effet touristique? Parce que je pense que c'est quand même le but de ces labels, et notamment de l'UNESCO, c'est peut-être d'attirer des visiteurs dans la France, mais également dans le monde entier.
Oui, alors c'est vrai, c'est une des conséquences. En général, on dit qu'un site qui est inscrit à l'UNESCO, il a entre 10 et 30% de visiteurs en plus. Nous, après, ce qui est très difficile, c'est de le mesurer sur le territoire, parce que on n'est pas une cathédrale. Une cathédrale, Albi, voit vite si le parking est plein ou pas. Nous, c'est à l'échelle de 3000 km², on est le second plus grand bien inscrit au monde. La surface est énorme, on est sur des paysages. Donc tant qu'on n'a pas de site d'accueil, c'est difficile de mesurer cette fréquentation. Après, on a les professionnels du tourisme qui nous disent qu'ils commencent à avoir des visiteurs qu'on ne voyait pas avant. La clientèle asiatique, la clientèle australienne notamment, qui est très attirée justement par les paysages culturels. Et sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc sur des saisons qui ne sont pas celles fréquentées habituellement par le touriste français. Donc on pressent qu'il y a des choses, mais on n'arrive pas à le mesurer. Mais effectivement, le tourisme, c'est beaucoup de régions ou de pays veulent faire inscrire des sites pour avoir des retombées touristiques derrière.
Donc l'entente, c'est un peu l'animateur de tout ça, en fait.
Voilà, nous, en fait, nos missions, c'est la gestion, la valorisation du site pour l'État, et on rend compte à l'UNESCO de ce qu'on fait, on a un plan de gestion, et tous les 7 ans, on rend un rapport sur notre activité, sur les menaces éventuelles sur du site, ou les atouts, voilà ce qui a été fait. En fait, on est quand même surveillé, on doit rendre compte de ce qu'on fait, et c'est normal.
Il faut savoir qu'un site n'est pas acquis à tout jamais, puisqu'il y a par exemple des sites qui ont été radiés de la liste du patrimoine mondial.
Et est-ce que les populations locales... Elles sont fières de cette appellation?
Oui, je pense qu'elles sont fières, même les agriculteurs qui, au départ, n'étaient pas forcément, ne partageaient pas ou avaient beaucoup de craintes ou d'interrogations sur cette inscription. Aujourd'hui, ils sont fiers parce que c'est quand même leur travail qui est reconnu avant tout. Après, l'appropriation, elle est lente à se faire. Le site a été inscrit en 2011, et ce qui est jeune pour un site UNESCO. Donc du coup, il y a encore quand même toute une appropriation à faire, et notamment auprès des jeunes. Et cette année, voilà, on met vraiment l'accent aussi sur sensibiliser les écoliers de tous ces territoires à cette richesse patrimoniale.
Une des premières, enfin, je sais pas si je vais peut-être dire une bêtise, mais une des premières actions, ça a été de mettre en place des ambassadeurs, notamment à la fois dans la dimension touristique et puis pour parler sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots?
Oui, bien sûr. Alors, on a 2 sortes d'ambassadeurs. On a les ambassadeurs institutionnels. Alors, ce sont les offices de tourisme, les agences de développement touristique, toutes les grandes institutions comme le Parc national des Cévennes, comme les conseils départementaux ou les chambres d'agriculture, par exemple. Et puis, on a des ambassadeurs privés qu'on appelle, nous, puisque ce sont tous les professionnels du tourisme, les prestataires. Ça peut être des giteurs, des restaurateurs, des guides accompagnateurs. Donc ces gens-là reçoivent deux fois par an une information sur le territoire pour leur préciser certaines choses sur l'actualité de l'entente, où on en est, mais aussi par rapport à l'histoire du territoire et à ce qui s'y fait dessus. Et ça leur permet de pouvoir en parler à leurs clients et de mettre en place des conférences ou des explications envers leur clientèle.
En fait, ces ambassadeurs, ils doivent s'engager, ils signent un cahier des charges et ils doivent s'engager à promouvoir d'une façon ou d'une autre soit le territoire Causses-Cévennes, soit la culture ou l'agriculture Causses-Cévennes. Et c'est vrai qu'ils ont des formations qui leur permettent aussi d'aborder toutes ces notions. Ils en ont eu sur les milieux ouverts, les circuits courts, le patrimoine hospitalier ou templier. Voilà. Donc c'est des choses très variées, mais qui font partie de la culture agro-pastorale pour que justement ils ne se sentent pas désarmés aussi quand ils ont des visiteurs. Et puis on leur donne aussi de la documentation voilà, qui soit capable de pouvoir faire eux-mêmes... qu'ils soient eux-mêmes porte-parole de cette inscription.
Après, c'est un réseau qu'on essaie aussi de mettre en valeur, par exemple sur des émissions de télévision, comme l'année dernière quand Frédéric Lopez est venu sur le territoire, c'est des ambassadeurs qui ont travaillé. Enfin, vous voyez, on essaie de mettre en valeur ces gens-là qui promeuvent le territoire des Causses et des Cévennes.
Alors peut-être vous avez quelques actions menées. Alors on reviendra un petit peu tout à l'heure sur un web documentaire, donc justement qui est aussi dans cette approche de sensibiliser les jeunes notamment, hein, si j'ai bien compris la présentation, on le reverra dans la deuxième partie de l'interview. Mais peut-être d'autres actions que vous menez et qui, justement, pour faire vivre et faire connaître ce bien UNESCO.
Oui, effectivement, on a plusieurs actions. Alors, comme vous le disiez, Morgane, la toute dernière, c'est l'acquisition de la maison du site à Florac. Alors, c'est une maison qu'on souhaite développer, puisqu'on souhaite y développer une boutique à l'intérieur et puis des expositions temporaires d'artistes du territoire. Et puis mettre en valeur aussi l'agro-pastoralisme au travers d'une exposition. On fait aussi des visites de ferme. Depuis 2 ans, c'est une action qu'a souhaité mettre en place la présidente. Alors, ça se faisait déjà sur une partie du territoire, notamment sur le Mont Lozère. Donc Sophie Pantel nous avait demandé à étendre cette action sur l'ensemble du territoire Causses-Cévennes, ce qui fait que la première année, on avait une vingtaine de fermes qu'on pouvait visiter. L'année dernière, on était à 40. Cette année, on est en train un petit peu de revoir le projet, puisqu'on veut vraiment axer l'action sur l'agropastoralisme et non pas sur plusieurs choses qui peuvent se faire en matière de ferme et qui ne correspondent pas tout à fait à l'agropastoralisme. Donc on est en train de recentrer tout ça. Et puis, on travaille aussi sur l'agriculture avec un réseau. Alors, peut-être Morgane vous en parlera un peu plus que moi.
Oui, mais cette année, en fait, on est très vigilants puisqu'il y a la nouvelle PAC qui se discute, la politique agricole commune. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose où on est très vigilants parce que ça nous permet de défendre aussi la spécificité de ces territoires qui sont parfois oubliés des aides agricoles. Ça avait été le cas lorsqu'il avait fallu faire reconnaître le pâturage sous chênaie et châtaignier. C'est très important, ça a ramené énormément d'argent sur le territoire de ne pas exclure ces zones-là. Donc là, on va rentrer, on va dire, en zone de vigilance où voilà, on participe avec d'autres pays européens, notamment dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle HNV Link, qui regroupe des pays qui font de l'agropastoralisme. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une position commune 10 pays européens avec des recommandations, de pouvoir faire entendre sa voix aussi à l'Europe et essayer d'influencer au mieux la PAC pour qu'elle profite aux agriculteurs du territoire.
Et puis il y a quelque chose sur lequel on travaille aussi, et c'est une demande de l'UNESCO, c'était le rapprochement avec des sites à l'international. Donc depuis l'année dernière, on a été rapproché par 2 sites, à savoir le site du Val del Madriu Perafita Claror en Andorre, alors qu'il y a un site aussi un petit peu agro-pastoral, un paysage naturel. Et puis le site du Kars du Libo dans la province du Guizhou en Chine, où nous en revenons il y a quelque temps.
Voilà.
Vous avez voyagé là-bas ?
Oui, oui. Et on a reçu la délégation chinoise au mois de décembre. Voilà, il y a 15 jours, on était avec eux. Et c'est vrai qu'on a voilà, des projets de coopération sur leur maison de site, parce qu'ils sont aussi en train de bâtir leur maison de site où ils souhaitent qu'on soit présent. Et puis sur des échanges envisagés, peut-être au niveau des scolaires et puis surtout en matière de professionnels du tourisme. Et aussi, nous, l'intérêt, c'est essayer de mieux comprendre cette clientèle chinoise et ses attentes. Et peut-être, parce qu'on ne le fera jamais tout seul, mais peut-être avec les autres sites UNESCO de la région, essayer de proposer une offre touristique qui pourrait correspondre à ce qu'ils souhaitent découvrir avec des sites comme le Canal du Midi, Carcassonne, qui sont quand même des leviers importants, et arriver à les amener jusqu'à chez nous. Parce que finalement, quand on les a reçus, on a vu, ils étaient assez subjugués. C'est vrai que quand ils voient le Méjean, on n'avait pas un habitant à l'horizon, et eux, c'est des mégapoles surchargées. Mais finalement, ils trouvent que voilà, ce sont des zones zen, ils sont aussi en recherche de ça. Et finalement, je pense qu'on va, on va finalement avoir pas mal d'atomes crochus et pouvoir développer des choses avec eux.
Et en matière sportive aussi, ils développent beaucoup la randonnée actuellement là-bas. Donc, c'est quelque chose qu'ici, on a déjà pas mal développé. Donc, ça les intéresserait aussi de venir pour ça.
Et qu'est-ce qui attire du coup le Guijo avec la Lozère? Parce que je sais que le Guijo est en partenariat avec également l'UPVD de Mende, l'université, dans la formation du tourisme, avec des étudiants notamment chinois qui viennent de Guijo. Qu'est-ce qui fait que ce territoire en Chine est intéressé par la Lozère?
En fait, à l'échelle de la Chine, c'est le département rural par excellence. C'est celui qui a été le plus longtemps... difficile d'accès. Ils viennent juste d'être désenclavés depuis 2013 où ils ont le TGV qui arrive dans cette zone-là. Mais du coup, voilà, on a plein de parallèles avec le poumon vert, territoire préservé, avec une activité agricole importante, donc un parc national aussi. Donc on arrive à faire des parallèles, même si les échelles ne sont pas les mêmes, mais avec aussi des savoir-faire autour de l'activité agricole. Donc finalement, il y a plein de ponts possibles et de parallèles possibles. Et je pense que finalement, ben, on est un peu leur homologue à une échelle un peu moindre.
Oui, par rapport à l'échelle, il faut savoir que le Guizhou, c'est aussi grand que la France, par exemple, et qu'il y a 50 millions d'habitants.
Voilà. Mais pour eux, ce n'est pas beaucoup. Hein.
Rural, quoi.
Très bien, ben voilà, on a fait un peu connaissance avec l'entente et un peu avec les actions que vous menez. On y reviendra, on parlera plus en détail du web documentaire qui a été présenté aujourd'hui. Et tout de suite, après une petite virgule, ça sera la chronique d'Éric.
Actuellement.
Éric, c'est parti, on lit avec toi.
Donc voilà, en ce début d'année, c'est normalement la saison des bonnes résolutions. Alors je pourrais vous parler de toutes celles que je n'ai pas réussi à tenir l'année dernière, mais ce serait trop long.
Et puis tu l'as déjà fait l'année dernière.
J'en avais parlé déjà, non, j'avais fait un petit point en milieu d'année.
Ah oui, c'est ça.
Pour savoir si j'allais pouvoir, et puis bon, non. Donc là, à la place, je vais vous parler d'une manifestation qui aura lieu ce week-end à Mende et dans toute la France, la nuit de la lecture. Alors, la bibliothèque organise une après-midi spéciale et on pourra même terminer cette nuit de la lecture ici, à la radio, à partir de 22h. En plus, il paraît que Ludo offre un verre de vin à tous ceux qui viendront. Lecture et vin, ça, c'est une bonne résolution que je m'engage à tenir. Bon, malheureusement, on ne pourra pas en profiter à la lorgnette parce qu'elle vient de fermer ses portes et cela me rend assez triste. Alors, dans cette librairie, il y avait tellement de choses différentes, des dragons, des princesses, des rois, des animaux en tout genre, de la vie, de l'espoir, des vies par milliers et bien d'autres encore. Alors, j'y allais tout seul ou en famille, donc cela va nous faire un vrai vide. Parce que pour nous, la lecture c'est important et puis on ne verra plus Héloïse. Parce que chez nous, donc, la lecture cela a toujours été âgée. Cela commence tout petit, même avant l'école, avec une histoire que l'on lit aux enfants avant de dormir ou dans la journée pour un moment de calme. Lire c'est important dès le plus jeune âge. Parce que ça offre une évasion et une première clé vers l'indépendance. Celui qui n'a pas accès à la lecture va être privé d'énormément de choses dans son enfance. Le monde imaginaire qu'on se construit. C'est par la lecture qu'on peut le développer avec des lectures ludiques, des romans ou de la BD. Moi, quasiment jusqu'à l'âge adulte, je n'ai lu que de la bande dessinée. C'était presque un acte de résistance de ma part. Parce que la BD était alors considérée comme une sous-culture. Seul Astérix et au mieux Tintin étaient bien vus. Alors, les livres, je n'y allais pas. Il n'y avait pas d'image, il fallait se les inventer. Il me semblait que c'était comme de gravir une montagne, parce qu'il y avait 300 pages minimum derrière. Bon, il faut dire que le système scolaire m'avait un peu dégoûté de la lecture, en m'imposant des livres ennuyeux. Il y a plusieurs exemples d'auteurs considérés comme fabuleux, qu'on voulait me forcer à lire, comme Flaubert et Balzac, pour ne citer qu'eux, et je n'ai jamais réussi à rentrer dans leur univers. Pourquoi ? Parce que c'était du devoir, pas du plaisir. Pourquoi on ne pourrait pas étudier Harry Potter au collège ? Bon, personnellement, le premier roman qui m'a donné envie de lire et que j'ai dévoré d'une seule traite, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'y ai trouvé des réponses à des questions que je n'avais même pas eu idée de me poser. Et puis au lycée, j'ai eu une professeure très dure, mais qui avait choisi des livres passionnants, comme Le Meilleur des Mondes ou Fahrenheit 451, et qui pouvait nous parler à un âge où l'on perd tous nos repères. Elle m'a donné d'autres clés pour comprendre comment lire, et ainsi, par le détour de la fiction, les livres ont élargi mon expérience et m'ont offert un autre regard sur le monde et sur moi-même. Alors, le roman ne prétend ni à la vérité, ni à l'objectivité. Il n'y a pas que les romans, du reste, il y a aussi les fables, les contes, les nouvelles, les récits, les mémoires. La lecture est plurielle, et c'est la raison pour laquelle il n'existe aucune raison unique de s'y engouffrer. Elle a pour seule constante son inconstance. Elle représente l'aléatoire et l'imprévu, l'éphémère, le minuscule, le sensuel, le hasard d'une rencontre, le battement d'un cœur, la violence d'un sentiment ou d'une altercation. Nos lectures nous parlent également du monde, d'une époque, comme Jules Verne qui pouvait nous expliquer les sciences de son temps, mais qui a su également nous passionner pour les rêves du capitaine Nemo. De même, un livre comme L'étranger d'Albert Camus constitue une synthèse des grands thèmes de la philosophie, la solitude, la mort, l'altérité, l'absurde. Intuitivement, nous sentons que les mots de Camus disent quelque chose de singulier sur son époque, mais aussi sur nous-mêmes. Voir le monde en empruntant les yeux d'une narratrice ou d'un narrateur. À cet égard, le roman permet de se retrouver tour à tour dans la peau d'un détective, d'une amoureuse, d'un dictateur ou d'un orphelin. Alors, la fiction nous procurait en quelque sorte des vies par procuration, et ce de dès l'enfance. En quelque sorte, on expérimente des situations qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. On peut choisir certaines situations, en refuser d'autres. C'est tantôt dérangeant, tantôt réjouissant. Il y a ainsi de l'émotion, du plaisir et de l'évasion. Bon, on n'est tout de même pas obligé de s'identifier. On peut ainsi aimer ça sans devenir sadique. Pas plus qu'étudier Machiavel ne rend machiavélique, même si cela peut donner des idées. Alors, se saisir d'un livre, c'est prendre rendez-vous avec soi. Alors, la lecture n'est pas un critère de bonheur en soi. Je connais des gens qui ne lisent pas et qui sont tout à fait fréquentables. Mais ce qui se passe quand on ne lit pas, c'est qu'on se prive des merveilles, de merveilles absolues et on ne le sait même pas. Alors, la lecture est ainsi une des bonnes résolutions qu'on peut prendre à tout moment, à commencer par samedi, par cette nuit de la lecture.
Voilà, c'est à partir de 22h ici dans le Transfo, donc en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et sur 48 FM à l'antenne. Voilà, c'est autour de la littérature érotique, oui, notamment.
Et il y a quand même 200 établissements en France qui, j'ai vu un reportage récemment, qui pratiquent 15 minutes de lecture par jour.
Et ils cessent. Dont le groupe scolaire Jean Bonijol Amande.
Voilà. Et ils cessent toute activité, aussi bien les secrétaires, leur téléphone, leur ordinateur, et ils se consacrent uniquement à lire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et notamment, ce qui est quand même relativement soulevé, c'est que les livres, je les trouve que c'est cher quand même, et qu'il faudrait aussi peut-être revoir le prix de certains livres. C'est quand même, reste un loisir qui est pour certains assez élevé.
Il y a la bibliothèque. Alors,
pour les grandes villes, mais notamment dans les zones rurales où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas de tout ce service public, c'est quand même...
Ah, il y a quand même un service.
Il y a la bibliothèque départementale, justement, ils ont un camion livre.
Ah, un camion livre.
Oui, ils se déplacent.
Et
ils se déplacent sur tout le département et ils font 4 fois le tour du département dans l'année. Donc,
c'est ça.
Donc ça fait une fois par trimestre, en fait.
Ouais. Et ça va se développer en plus avec...
Ça, c'est bien.
Et on peut réserver des livres.
C'est ça. Oui,
c'est-à-dire
en ligne.
On a accès en ligne et on peut réserver des livres pour la visite. Ouais.
Okay.
Donc s'il y a quand même des choses qui sont faites après, voilà, ça permet de, avec un budget un peu moins intéressant de.
Il y a aussi des livres sur informatique maintenant qu'on peut
lire. Oui.
Et les trocs livres.
Oui, nous on aime beaucoup échanger nos livres.
est-ce que vous êtes des grands lecteurs?
Moi oui, ouais. Moi je dévore.
J'aimerais l'être un petit peu plus, mais c'est le talent.
Et puis bon, vous regardez des films aussi.
Il y a
d'autres
occupations.
Mais on en reparlera tout à l'heure, parce que moi je parlerai création sonore, ça fera le lien livre, radio et film. Merci Eric pour cette invitation à la lecture. Et donc voilà, rendez-vous samedi. On va faire une première coupure musicale. Donc on n'a pas eu le temps de demander leur avis à nos invités. Ça sera des Lozériens avec Dino.
Loz Actuali.
On se retrouve, deuxième partie de notre émission. Voilà, alors c'est le moment, évidemment, où comme on était en train de manger, c'est toujours compliqué. Mais c'est pas grave, vous voyez. On se retrouve donc avec Morgane Costemar, directrice de l'entente départementale, de l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. Il faut pas le dire trop vite, sinon on n'y arrive pas.
Non, mais tu dis EICC, c'est plus simple.
Et Alain Argillier, chargé de communication et du tourisme pour cette entente. Alors, on a parlé un petit peu de qui vous étiez et de vos missions et des projets que vous développiez. Et aujourd'hui, vous présentez un web documentaire qui s'appelle Causses et Cévennes, dont l'objectif, si j'ai bien compris, est un petit peu de parler notamment aux jeunes de ce qu'est cet espace. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet de web documentaire ?
Donc, un web documentaire, c'est un documentaire, mais à la différence des documentaires, on va dire, communs, c'est l'internaute qui choisit ce qu'il découvre dans ce support-là. Donc, il est acteur de sa découverte. Donc, nous, Causses et Cévennes, le web documentaire qui a été réalisé, on propose trois chemins de découverte. Les hommes, les paysages et les troupeaux. Et une fois qu'on est sur ces chemins, ça permet de découvrir toutes ces notions. À travers le webdoc, on peut découvrir jusqu'à 80 notions liées à la culture agropastorale. Et c'est fait de façon très ludique, parce que notre cible prioritaire, ça a été le jeune public, les écoles. Parce qu'en fait, c'est quand même compliqué de parler de qu'est-ce qu'un paysage culturel, qu'est-ce que l'agropastoralisme. Mais il s'adresse aussi aux visiteurs qui sont peut-être pas du tout familiers de ces notions-là. Donc ce web documentaire est traduit en trois langues. En fait, il y a français, anglais et espagnol, qui sont les trois langues officielles de l'UNESCO. Et de façon tout à fait ludique, à travers des mini-vidéos, des dessins, un atlas cartographique, des abécédaires, on découvre toute cette culture agro-pastorale. Et si on fait les parcours en entier, on en a à peu près pour une heure de découverte. Mais ça peut être aussi, on pioche selon le thème qui nous intéresse. Et on a pu particulièrement passer aussi aux professeurs des écoles ou de collèges avec toute une partie qu'on appelle l'abécédaire qui permet de télécharger des petites fiches de définition, d'infos sur des thématiques spéciales.
Alors, sa diffusion de ce web documentaire, quelle va-t-elle être ?
Alors déjà, c'est un outil qui est gratuit et disponible à toute personne qui a une connexion Internet. Il suffit d'aller sur le site Internet de l'Entente qui s'appelle causses-et-cévennes.fr. On a un onglet web documentaire et là, on a accès à tout. Mais on a aussi pensé aux lieux qui n'ont pas une connexion Internet super ou bien rapide. Et du coup, on va aussi le distribuer sur clé USB à ceux qui nous en feront la demande. Et vraiment, le but, c'est de le diffuser un maximum. Les offices de tourisme vont l'avoir, puisqu'il est aussi adaptable. Donc, il est en mode responsive, donc il est adaptable aux tablettes, aux téléphones. Et l'idée, c'est que tous les gens qui font de l'accueil puissent le diffuser. Et ce, gratuitement. Voilà, c'est vraiment diffuser au maximum cette culture agro-pastorale.
Et vous avez fait intervenir des personnes, des locaux ?
Alors, on a récolté déjà, il y a eu un gros travail de récolte de médias qui a été fait au préalable. Et ça, on l'a fait auprès des locaux, d'associations, de coopératives, des institutions qui sont présentes sur le territoire. Parce qu'il nous fallait, pour que l'outil soit intéressant, qu'il y ait du son, qu'il y ait des petites images, des petites vidéos sympas et tout, et des photos, il nous fallait de qualité. On n'avait pas assez, de ressources au sein de l'entente. Donc, on a vraiment, brassé large. En fait, on a mis 6 mois à récolter tous ces médias. Et la fabrication elle-même du web documentaire a duré un peu plus de 2 ans. Donc, on est content que ça se termine. Là, on n'en peut plus de relire les textes, de réécouter les films. Mais du coup, je pense que ce matin, on a fait une présentation à la presse. Et je crois que c'est quelque chose, un outil qui sera quand même bien perçu et auquel on a associé un grand nombre de partenaires qui sont présents aussi. On peut le voir sur le webdoc.
Qui est-ce qui a conçu le web documentaire sur sa structure, son organisation, ses contenus et sa mise en œuvre ?
Alors en fait, on a fait appel à un bureau d'études, parce qu'on n'avait pas la compétence pour le faire. On a fait appel à un bureau de communication qui s'appelle Sepia, qui notamment avait déjà fait des contenus pour l'émission C'est pas sorcier. Donc on savait qu'ils avaient ce côté pédagogique qu'on recherchait. Et puis après, ça a été un travail conjoint avec eux sur effectivement l'arborescence, parce que c'est un peu comme un site internet. Qu'est-ce qu'on met derrière chaque rubrique ? Qu'est-ce qu'on met comme notion ? Nous, on a écrit les textes Et eux ont mis en musique et en page tout ça. Voilà. C'est vraiment un travail à plusieurs mains qui, au sein de l'entente, a occupé, pas de façon continue, mais qui a fait appel aux compétences de 3 personnes différentes pour pouvoir le mener à bien.
Oui, et puis il faut souligner aussi que ça a pu se réaliser grâce à des partenaires, notamment les 4 conseils départementaux de l'inscription UNESCO, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et puis la Lozère, et puis grâce à la région Occitanie et puis à l'Europe.
Et donc, on peut dès à présent le
ça y est, il est en ligne, on a lancé ce matin, c'est officiel, donc sans souci, à partir du site internet de l'entente, on peut avoir accès au web documentaire, surfer sur les paysages et découvrir tout ça.
C'est vraiment un outil de compréhension et de connaissance, pas un outil de promotion.
Non, c'est vraiment plus axé sur la connaissance, effectivement. Après, ça fait la promotion du territoire parce qu'il y a de belles photos, il y a de belles images, il y a une petite vidéo qui est assez sympa aussi en introduction. Donc, c'est aussi quand même mettre en valeur les atouts paysagers que l'on a. Mais c'est avant tout, voilà, découvrir.
Qui sont la conséquence de l'agro-pastoralisme.
Voilà, donc, exactement. Voilà.
D'accord, donc ben voilà, c'est vraiment à découvrir. À découvrir sur le net. La dimension de valorisation justement d'explication, c'est quelque chose sur lequel vous avez des projets, des développements à venir aussi.
Oui, ben on a aussi développé une mallette pédagogique grâce à un partenariat en fait avec la sous-préfecture de Florac et Supagro-Florac. Qui a une licence spécifique dédiée à l'éducation et à l'environnement. Donc, on a fait une petite mallette pédagogique qui va être aussi bientôt en ligne. Et puis, toute cette dimension d'éducation, d'interprétation, on va la développer à travers les hauts lieux de l'agropastoralisme, qui vont être donc des sites un peu remarquables. En Lozère, il y aura la ferme des Boissés, Bar des Cévennes, l'écomusée, l'ancien écomusée du Mont-Lozère qui va trouver une nouvelle structure. Et qui seront des hauts lieux où les gens vont pouvoir s'approprier cette culture agro-pastorale, en découvrir des facettes. Alors pour les Boissés, ça sera certainement l'architecture cossonarde, vu la beauté des bâtiments. Sur l'écomusée du Mont-Lozère, on sera davantage sur la transhumance. Mais voilà, ces hauts lieux vont être développés sur tous les départements. Les 4 départements, la Lozère part en premier, l'Aveyron suit de très près, et puis l'Hérault et le Gard se feront certainement plutôt à l'horizon 2020-2021. Mais c'est autant de projets qui vont permettre justement de pouvoir expliquer, d'avoir des lieux d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, à part dire « venez voir nos paysages », on n'a pas d'endroit où on peut les expliquer et puis offrir quelque chose vraiment à voir et à comprendre.
Mmh. Ouais, les premières étapes, elles ont été sur cette connaissance scientifique, sur la mise en avant aussi de la visibilité du parc, de la zone UNESCO. Et maintenant, c'est vraiment cette phase de valorisation sur laquelle vous misez de plus en plus, si je comprends bien.
Oui, on avait des obligations aussi par rapport à l'UNESCO. On avait l'obligation de se doter d'un plan de gestion. Donc c'est vrai que les premières années ont été d'abord dédiées à construire un plan de gestion sur un territoire très vaste, multi-acteurs, donc avec énormément d'actions aussi à développer derrière. Et c'est vrai qu'on était plus tournés sur l'objet gestion, meilleure compréhension. On avait la demande de l'UNESCO de réaliser un inventaire des éléments du patrimoine agropastoral pour justement étayer aussi, d'un point de vue scientifique, cette connaissance. Et maintenant, on peut enfin passer au volet valorisation. Tout le travail qui a été fait avant, c'est vrai qu'il n'est pas très grand public, c'est pas des choses qui se voient, mais c'est un travail qui est nécessaire et qui était obligatoire. Donc maintenant, on espère, en développant le côté valorisation, pouvoir aussi développer le côté appropriation et diffusion par rapport à cette inscription.
Et tous ces travaux scientifiques, ce sont quand même des travaux là qui perdurent ou ça...
Oui, l'inventaire n'est jamais fini, il y en a trop. Mais oui, c'est des choses qui perdurent, le plan de gestion également. Si, on a un observatoire aussi de l'agropastoralisme qu'on nourrit avec tout ce qui concerne plutôt le monde agricole, la fermeture ou l'ouverture des milieux, toutes ces choses aussi qui font partie de la conservation du territoire.
Et tout à l'heure, tu disais que c'était pour 7 ans, non, c'est ça?
Non. Alors, en fait, l'inscription, elle est acquise, on va dire, à vie. Mais tous les 7 ans, on rend compte de ce qu'on fait Après, ce sont des rapports périodiques. Voilà, ça ne remet pas en cause l'inscription, à moins qu'on fasse une grosse, grosse bévue d'ici là. Mais,
Donc, ça veut dire que c'est en 2020 que passent les examinateurs, entre guillemets, pour repartir pour une future période ?
Bah, alors, a priori, la dernière nouvelle qu'on a, c'est que la zone Europe, parce qu'on est découpé D'accord. en zone mondiale, la zone Europe serait reportée à 2021. Donc c'est bien, ça va nous permettre de finir par rapport à notre plan de gestion, en plus qui est sur ce pas de temps-là également. Mais oui, il va falloir rendre la copie.
C'est quelque chose qui est compliqué ou...
Ouais, c'est assez compliqué parce que c'est vu à l'échelle mondiale. Donc on a à peu près 500 questions à répondre et à argumenter. Ça se fait en ligne. Mais il y a des choses, par exemple, sur l'ensablement. Voilà, parce que c'est à l'échelle mondiale. Donc l'ensablement ne nous concerne pas trop encore. Mais voilà, il y a d'autres thématiques sur lesquelles, effectivement, on va avoir des choses à apporter et sur lesquelles il va falloir argumenter.
Et puis, il y a aussi des experts internationaux qui viennent sur le territoire pour vérifier la réalité des choses, quand même. Donc,
voilà, là, c'est au hasard. C'est la roulette russe.
Ce n'est pas des Français, évidemment, puisque sinon, ce serait trop facile.
Voilà, la dernière experte qu'on a eue était une experte italienne, Lionella Scazzosi, qui est venue en 2014... pour effectivement se rendre compte des choses et voir si notre plan de gestion était adapté à ce qu'elle voyait sur le territoire et avec effectivement si les actions qu'on avait ciblées prioritaires l'étaient ou pas au regard de l'UNESCO.
Et au final, ce qui est reconnu, c'est une pratique agricole, enfin qui est derrière génératrice de plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui cette pratique, elle est toujours d'actualité, elle est toujours aussi présente? Est-ce que elle est, quel est son avenir? Enfin, est-ce que finalement cette base est toujours là pour assurer la qualité du territoire
Alors aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi qu'on a été inscrit, c'est que contrairement à d'autres pays de l'art méditerranéen, l'agropastoralisme est encore présent, quoi qu'on en dise. Nous, sur le territoire, on a à peu près 1700 exploitations qui font de l'agropastoralisme. Ensuite, notre objectif et notre priorité, l'orientation numéro un de notre plan de gestion, c'est faire en sorte que ce pastoralisme se maintienne. Donc, c'est travailler sur le foncier, c'est travailler avec les jeunes agriculteurs, c'est répondre aux difficultés qu'ils ont. Et c'est vrai que nous, c'est la plus grosse contrainte que l'on a eue depuis, c'est l'arrivée de la prédation. Puisque lorsque le site a été inscrit, il n'y avait pas de prédation depuis cette arrivée. Et effectivement, ça fait partie des menaces aussi qui pourraient peser sur l'agropastoralisme. Et des choses sur lesquelles il faut qu'on se penche et sur lesquelles on travaille aussi bien avec les agriculteurs qu'avec les services de l'État, parce qu'on gère ce site pour le compte de l'État.
D'accord.
Parce qu'il y a d'autres... Là, justement, tout à l'heure, tu avais fait presque un lapsus. Il y a le parc national, il est à l'intérieur du site UNESCO. Vous êtes obligé de travailler aussi avec...
Tout à fait.
Avec eux, avec tous les...
Mais c'est ce qui fait la complexité en fait de sa gestion, c'est que sur notre territoire, on a un parc national, celui des Cévennes, on a le parc naturel régional des Grands Causses, on a trois grands sites, donc les Gorges du Tarn, Navassel et Saint-Guilhem, le plus au sud, donc des sites qui ont déjà leur propre plan de gestion, qui ont déjà des contraintes fortes, parce que nous, l'UNESCO, ne génère pas de contraintes, mais du coup, il a fallu, quand on a rédigé nos plans de gestion, on s'est tous mis autour de la table pour que ça n'aille pas à l'encontre de leur propre gestion et de faire en sorte que leur plan de gestion actuel ou futur prenne aussi en compte nos objectifs. Et c'est là, toute la difficulté de ce territoire, c'est de se mettre tous autour de la table et arriver à trouver une posture commune pour valoriser et puis préserver ce site.
Bien, mais merci beaucoup de cette présentation. Et je pense qu'on peut, retrouver, je pense, beaucoup de ce que vous nous avez dit sur votre site. Alors, je reprends mes fiches. Causses au pluriel -et-cévennes au pluriel aussi.fr.
C'est ça.
Et on peut retrouver donc toutes les infos et ce web documentaire qui a été présenté aujourd'hui. Et tout de suite, après la virgule, ça sera ma chronique, puisqu'aujourd'hui, Léa n'est pas là, donc c'est moi qui m'y colle.
Merci.
Loz Actuali.
Alors oui, moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui de création sonore, de création radiophonique, puisque c'est un mouvement qui, depuis quelques années, vient sur nos, un petit peu de plus en plus fort. Un mouvement qui est aussi en lien avec ce qu'on appelle la délinéarisation de l'écoute, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus la radio forcément toujours directement, mais on le fait au travers de podcasts, et notamment on voit se développer ces dernières années ce qu'on appelle des podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts qui sont créés spécialement sans forcément que ce soit une émission de radio qui soit ensuite à disposition sur Internet. Alors c'est aussi quelque chose qui se développe au sein des radios associatives, avec des envies, avec des choses. Et notre fédération régionale, l'ARA, en Occitanie, s'est engagée sur ce terrain en partenariat avec la région. Vous avez déjà commencé à entendre les portraits citoyens d'Occitanie. En ce moment, on est un petit peu en pause sur quelques portraits, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Et puis il va y avoir dans quelques temps des créations sur le thème de l'itinérance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par création sonore, vous allez me dire? C'est plein de choses différentes. Ça peut être des objets radiophoniques ou des objets podcastables. C'est des objets où forcément il y a du son, où il y a un univers sonore qui est peut-être un petit peu plus travaillé que pour un simple reportage ou une simple émission, avec différents genres finalement, comme on pourrait le retrouver en cinéma, hein, des fictions, des documentaires, des docu-fictions. On va mêler un petit peu tout ça. Avec des formats unitaires, c'est-à-dire un seul documentaire, par exemple, ou une série, ou un feuilleton, si on parle de fiction. Alors, ce qui est super dans le son, c'est que ça stimule notre imaginaire. Alors, ça rejoint un peu la lecture. En lisant, on se fait des images, et en écoutant, on se fait des images dans notre cerveau, une interprétation. Alors, forcément, si on entend tous le même son, on n'entend pas forcément la même chose, on n'imagine pas forcément la même chose, et finalement, le réalisateur de ce qu'il nous propose plusieurs. Peut nous proposer plusieurs sens, peut utiliser un même son pour raconter plusieurs choses. C'est le sens direct, hein. Si on entend un bruit de chantier, par exemple, ça va être le chantier dont on parle. Mais ça peut être aussi la métaphore, le chantier comme une métaphore de la maladie, par exemple, avec cette douleur de la sirène, la façon dont on peut rebondir. Mais ça peut aussi être le souvenir sonore qui nous rappelle des choses. Alors moi, j'ai envie de vous proposer d'écouter un peu de cette création sonore radiophonique. Alors vous pouvez aller sur un certain nombre de plateformes qui proposent ces écoutes de création sonore et radiophonique. Parmi les deux plus importantes, on va citer deux éléments qui dépendent du service public. C'est Arte Radio. Vous connaissez Arte, la chaîne de télé, mais il y a cette petite activité Arte Radio avec un site de podcast, une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone, que vous pouvez écouter en marchant ou en voyageant sur la route. Il y a plein de choses. Vous choisissez, vous téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez découvrir plein de choses. Chaque semaine, donc Arte Radio propose des nouveaux podcasts et puis donc à la fois dans des créations originales à l'unité ou des séries. Il y a des choses très très rigolotes à écouter, des choses beaucoup plus marquantes aussi, et des reportages assez développés. Évidemment, autre grande référence dans ce domaine-là, c'est France Culture. Alors voilà, on a tous entendu les créations parfois folles, on va dire, de France Culture. Mais vous retrouverez directement sur le site de la radio publique deux onglets directs, un vers les fictions, un vers les documentaires, donc pour découvrir cette création sonore, avec des choses très très différentes, et vraiment très intéressantes aussi.
Moi, j'avais écouté une secte sur les pattes.
Et ben voilà.
Je sais qu'ils ont repris 2-3 Tintins là.
Oui, non, mais il y a vraiment. Ouais,
ils ont fait 2-3 créations sur Tintin.
Il y a vraiment des choses à la fois, donc en fiction, mais aussi en documentaire. On était en formation avec la Fédération des radios associatives la semaine dernière. Et notre formatrice pourrait présenter samedi un magnifique documentaire sur Aaron Appelfeld. écrivain célèbre, et donc vous pouvez réécouter sur France Culture. Voilà. Mais il y a aussi des acteurs associatifs locaux ou moins. L'association Beau Bruit, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales. Faune Radio. Alors Faune Radio, c'est un peu rigolo. Ça permet d'entendre un peu la nature. Faut aller voir. C'est rigolo et on chatouille vraiment l'imagination dans ce projet. Donc Faune, c'est contrairement à la faune qu'on peut retrouver sur le territoire, c'est PH cette fois-ci, hein, PHAUNE. Donc si vous voulez retrouver, on vous mettra les liens sur la page Facebook. Et puis donc sur 48FM, vous pouvez d'ores et déjà écouter les portraits de citoyens d'Occitanie. Il y aura bientôt les créations sur le thème de l'itinérance aussi. On va nous-mêmes, 48FM, porter un projet dans ce domaine-là. Et puis il y aura bientôt aussi une première grande soirée d'écoute de création radiophonique, un peu comme la nuit de la lecture cette semaine. Voilà, c'est un des projets de cette année 2019. Donc, comme on est là un peu en début d'année, on vous l'annonce. Et donc, ça va se préparer. Et puis, je vous rappelle que ce samedi, à partir de 22h, au Transfo, à la rue des Clapiers-Armandes, vous avez la nuit de la lecture. Et puis, n'hésitez pas à découvrir cette création sonore. Voilà.
Merci.
Très bien.
Je sais pas, alors Alain, on peut dire deux mots, parce que d'habitude on le fait au début, un peu les activités des invités, sur aussi le festival de Vébron que vous animez.
Tout à fait, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, puisque le son c'est primordial dans le cinéma, ça donne complètement un sens réel à l'image, ça met en relief aussi le film, puisque regarder un film sans le son, vous le verrez vraiment différemment. Donc le son est très très important et les réalisateurs soignent énormément ce travail qui, en plus maintenant, avec les techniques modernes, donne vraiment du relief et des effets aux spectateurs.
Voilà, donc on retrouvera, j'imagine que la sélection est en cours pour cet été à Vébron.
Donc cette année on a déjà beaucoup de films puisqu'on en a déjà reçu un peu plus de 80. Et on s'est inscrit sur notre plateforme de diffusion pour recevoir les films. Et j'ai mon comité de présélection là qui est en train de trembler un petit peu parce que d'habitude on avait à cette époque à peu près une quinzaine de films.
Ah oui.
Et comme la période d'inscription est ouverte jusqu'au 15 avril, ils ont un petit peu peur là.
Des nuits blanches pour visionner tout ça.
Voilà.
Très bien, mais merci pour cette petite info. Voilà, on sait, on s'en reparlera forcément sur 48FM dans l'été.
Merci beaucoup.
Et maintenant, ça va être le moment du portrait chinois de nos invités. Alors, c'est tout de suite.
Loz Actuali.
Voilà, c'est une façon de vous découvrir une nouvelle façon. Alors on va alterner comme vous êtes à deux. On va commencer avec un animal pour Morgane.
Le chat.
Un loisir pour Alain.
Le cinéma.
Un endroit préféré en Lozère.
Ah, c'est dur. Il y en a trop. Non, je passe, joker.
D'accord. Alain.
En Lozère, j'aime bien le Causse, mes gens, et puis j'aime énormément la vallée du Tarnon, évidemment.
Un endroit préféré dans le monde?
Préféré, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours à découvrir, mais j'aime beaucoup l'île de la Réunion.
Moi, j'adore le Maroc.
Morgane, une drogue favorite?
Le café.
Alain, un plat préféré?
Il y en a beaucoup. Je dirais le cassoulet, le couscous, beaucoup.
Un verbe ou un mot, Morgane?
Partager.
Un héros de fiction, Alain?
Iti.
Ok. Ça, c'est bien, c'est original, ça, de toute la série qu'on a faite, c'est pas mal. Et pour terminer, pour tous les deux, un rêve. Il est dur celui-là, on l'aime bien en fait.
De voir un monde en paix pendant longtemps, c'est vraiment un rêve, mais ce sera difficile.
Ah, des rêves, c'est pareil, il y en a plein, donc je ne peux pas choisir.
Bien, Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu de ce portrait chinois. On se retrouve pour la rubrique hashtag juste après une coupure musicale et c'est Esquelina.
Je suis amoureuse de toi, affreusement amoureuse, affreuse, affreuse, affreuse. Je n'ai jamais eu peur de ces choses-là. Je suis pulpeuse et tu sais que ma pulpe bat pour toi. Ma bouche s'agrippe à ta bouche, ma langue à ta langue et ma peau à ta peau encore. J'aime quand tu me touches jusqu'au fond de mon corps. Je suis amoureuse de toi, affreusement amoureuse, affreuse, affreuse, affreuse. J'aime te le dire, j'aime te le faire, laisse-toi faire l'amour, mon amour. Je suis chaude comme l'enfer. Mon âme s'agrippe à ton âme, mon cœur à ton cœur, et mes flammes à tes flammes, chaleur.
Allez, on se retrouve, on écourte un petit peu cette pause musicale parce qu'il nous faut finir un peu tôt aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec la revue de presse et avec Eric.
Oui, et vous avez peut-être déjà entendu parler, est-ce que vous connaissez le fameux dilemme du train ou du tramway ? Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez détourner un train fonçant vers quatre personnes en le dirigeant vers une autre voie où seule une personne sera tuée ? Mais là, en fait, la question elle va se poser vraiment pour les voitures autonomes. Donc, il y a une étude qui a été faite, justement, et la question a été posée. Et donc, il y a des réponses qui viennent de 233 pays. Alors, on aurait pu croire que l'âge, le sexe ou le statut social des participants allaient influencer les réponses. Mais en fait, c'est davantage la culture dans laquelle on vit qui influence nos choix moraux. Alors, il existe ainsi trois grandes régions dans le monde qui se sont révélées. Alors, il y a l'Occident, qui préfère épargner le plus grand nombre, mais aussi ne rien faire et laisser la voiture continuer sa route. Tant pis pour ceux qui auraient traversé au mauvais endroit. L'Orient, et avec aussi les pays asiatiques, qui privilégient les personnes respectueuses du code de la route, justement. Et enfin, les personnes du Sud, essentiellement l'Amérique latine, qui épargnent les femmes et les enfants. Alors, donc, en gros, on voit que les cultures qui sont basées sur le groupe ou l'individu ont vraiment eu des réponses différentes. Alors, d'après vous, dans quelle catégorie se retrouverait la France ?
Je sais pas.
Mais finalement, la France, c'est le seul pays de l'Occident qui fait pas comme le reste de l'Occident.
Ouais,
c'est le pays du Sud.
On doit faire comme l'Amérique latine, c'est ça ?
Comme l'Amérique latine, oui. Les femmes et les enfants d'abord.
D'accord.
Et donc, alors, cette étude, elle pose donc finalement presque une autre question. Elle montre un autre problème, c'est qu'il sera justement très difficile, voire même impossible, de concevoir une éthique universelle des machines. Ça va être très très compliqué, oui. Donc voilà, mais là, pour le coup, ils peuvent s'appuyer sur une vraie étude.
Beaucoup de travail pour les concepteurs de l'intelligence artificielle, alors.
Oui,
ouais, mais après, finalement, dans l'étude, c'est ce qu'ils expliquent, que finalement, au bout du compte, c'est presque pas leur problème.
Ils ont fait un faux procès aussi en Amérique, je crois, sur un véhicule autonome comme ça qui a percuté un piéton. Et finalement, qui avait gain de cause et qui allait pouvoir aller en prison, l'intelligence artificielle ou l'être humain ? Et ça a duré plus de 2 heures, le procès, enfin ce faux procès. Et finalement, ils ne sont pas arrivés à l'idée de trancher. Ouais.
Oui, c'est un choix moral qui se pose désormais.
C'est ça. Et voilà, mais le problème, c'est comme l'étude l'a montré, c'est qu'on n'a pas partout justement les mêmes appréhensions. Ouais.
Il y aura peut-être des réglages différents des véhicules autonomes selon... le pays ou l'endroit où
ouais,
on est.
C'est pareil, déjà qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certaines choses.
C'est sûr.
Ça va être quelle majorité qui va l'emporter. Si c'est à 50,001% contre 49,99%.
Ouais. À quelque part, c'est rassurant aussi, puisque ça permet de penser que rien ne remplacera l'homme, quoi qu'il en soit.
Non, c'est ça.
Très bien, merci Eric pour ce retour sur cette étude sur les voitures autonomes. Bastien, alors là c'est le côté détox du mois de janvier.
Ah c'est ça, le côté détox et le côté challenge, hein, puisque c'est ce qui est brillant avec le Dry January, c'est le challenge qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool pendant 31 jours et qui aurait des effets positifs sur la santé. Puisqu'en ce début d'année 2019, le défi à tenir, c'est le Dry January. Depuis quelques jours, le hashtag a fleuri sur les réseaux sociaux. Et même le gouvernement s'y est mis sur Twitter, puisque la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives met en avant une perte de poids, une meilleure qualité de sommeil, mais aussi des économies de budget. Alors, de quoi faire rêver? Et concrètement, le Dry January, ou janvier au sec en français, mais c'est moins glamour, consiste à ne pas boire un seul verre d'alcool pendant un mois. Il n'a pas été lancé en 2019, il a été lancé en 2013 par l'association britannique Alcohol Change UK. Le défi permet de reposer son foie après les fêtes de fin d'année. Mais pas que, puisque selon une étude de l'université de Sussex, au sud de Londres, le défi a aussi des effets bénéfiques sur le long terme, puisque des effets positifs 7 mois après. Donc l'an dernier, le psychologue, il y a Richard de Vissé, qui a mené une vaste étude avec d'autres chercheurs de l'université de Sussex sur les répercussions du Dry January, puisque plus de 2800 personnes ayant relevé le défi ont été interrogées, et 800 d'entre elles ont été suivies pendant 6 mois jusqu'en août. Donc ça a permis de faire des recherches poussées quand même. Et les résultats publiés en ce début d'année 2019 sont édifiants, puisque après un mois d'abstinence, 76% des participants estiment avoir gagné en énergie et 57% en concentration. Et plus de 7 abstinents sur 10 ont également amélioré leur sommeil, tandis que 58 personnes ont perdu du poids et 54% ont amélioré la qualité de leur peau. Et 88% ont également économisé de l'argent. Donc en août, tous les participants recontactés avaient réduit leur consommation d'alcool sur le long terme et assuraient toujours ressentir les effets positifs du Dry January. Voilà.
Ils ont bien drôle d'idées, les Anglais.
Ouais, ils ont bien drôle d'idées.
Ça permet de consommer d'autres drogues, comme le chocolat, par exemple, mais bon, pas avec mon chéri, par exemple.
Voilà.
De mon côté, dans la presse, j'avais envie de vous parler de Slate.fr qui publie un article. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux, vous pourriez lire 200 livres par an. Le chiffrage, voilà, on revient à ce que tu disais, hein, mais voilà, ça a été chiffré. Il y a une étude qui a été menée là aussi sur le temps qu'on passe sur ces réseaux sociaux chaque jour. Voilà, et donc avec un rythme de lecture moyen, c'est-à-dire que un Américain moyen lit environ 400 mots par minute. Un livre qui n'est pas de la fiction contient environ 50 000 mots. Donc 200 livres fois 50 000 mots, ça fait 10 millions de mots.
Donc un livre tous les 10 ans pour les Américains.
10 millions de mots, okay. Divisé par 400 mots par minute, ça fait 25 000 minutes. 25 000 minutes ça, divisé par 60, ça fait 417 heures. Donc pour lire 200 livres en une année, il faut allouer 417 heures de son temps à cette activité. Et ça tombe bien, c'est le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Voilà, puisque un Américain lambda consacre 705 heures sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un petit peu moins pour nous.
C'est comme ça que tu as lancé la rubrique hashtag, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Normalement, j'avais prévu de le faire après, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on va effectivement parler maintenant de la rubrique hashtag. Et on salue Eric qui s'en va.
Au revoir tout le monde.
À bientôt. Allez, c'est tout de suite la rubrique hashtag.
Loz Actuali.
Et donc, on commence avec Bird Box Challenge.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un véritable succès sur Netflix. Bird Box qui a fait la sensation sur le web, puisque les internautes n'ont pas tardé à lancer le hashtag Bird Box Challenge sur les réseaux sociaux. C'est un challenge totalement débile et dangereux qui consiste à se mouvoir en se bandant les yeux, comme l'actrice du film Sandra Bullock. Alors pourquoi un véritable hashtag moment? Tout simplement, tout d'abord parce que le film a été visionné 45 millions de fois en une semaine après sa sortie le 13 décembre 2018. Bird Box est un réel succès. Dans ce film, Sandra Bullock joue une survivante d'une apocalypse obligée de vivre les yeux bandés car des créatures forcent toute personne qui les regarde à se suicider. Alors très vite, détournements et même ont fleuri sur les réseaux sociaux. Cependant, certains internautes sont allés plus loin et ont décidé de faire ce challenge dans le vrai monde et en dehors de chez eux, un défi très dangereux et idiot qu'on vous déconseille bien évidemment d'imiter. Netflix a tout de même demandé sur son compte Twitter de cesser ce challenge, même si nous apprécions votre amour, ont-ils déclaré.
On poursuit avec le first
antisémite expérience.
C'est très dur à dire.
C'est très dur. C'est un hashtag un peu particulier. Il a été créé ce lundi par le rabbin Zvi Zolomon de la communauté juive de la synagogue à Reading en Angleterre. Croix gammée, discours de haine, harcèlement, menaces, les internautes se confient publiquement sur leur première expérience face au fléau. Et ça a commencé par Carly Pildis, la rédactrice de Tablet Magazine, qui a déclaré que sa première expérience antisémite a eu lieu à l'âge de 13 ans quand quelqu'un a dessiné une croix gammée sur les murs de sa synagogue. Un autre internaute, Shaida Deluca Tamassi, architecte d'intérieur israélien installé à Toronto, a pour sa part confié qu'il avait pris part à la marche des vivants en se promenant dans les rues de la Pologne, enveloppé dans des drapeaux d'Israël, lorsqu'un individu se tenait derrière la barricade avec un couteau à cran d'arrêt et le regarda dans les yeux en lui lançant que la prochaine fois, ce sera pour vous tous. Les actes antisémites, il faut le rappeler, ils connaissent une recrudescence en 2018 en Europe et aux États-Unis. Fin novembre, une enquête réalisée par CNN sur l'attitude des Européens à l'égard des Juifs, de l'antisémitisme et du souvenir de la Shoah révèle que plus d'un sondé sur quatre pense que les Juifs ont trop d'influence dans le monde de la finance, tandis qu'un sur cinq justifie l'antisémitisme. Voilà, donc c'est un hashtag qui a pris pas mal d'ampleur.
Et donc l'œuf.
Et l'œuf, eh ben oui, je suis désolé, c'est l'actualité en ce moment sur, notamment sur Instagram, puisqu'un très banal cliché d'œuf est devenu l'image le plus likée sur Instagram, battant au record jusqu'ici détenu par Kylie Jenner. Alors, qui est Kylie Jenner? C'est la sœur de Kim Kardashian. Donc, peu de choses, une banale photo d'œuf est devenue l'image la plus likée sur Instagram. Ça a été le défi, voilà, d'un Instagrammeur de détrôner celle-ci. L'œuf a atteint 33 millions de likes, alors que Kylie Jenner, qui avait le record, en a tenu 16 millions. Voilà, donc l'œuf a fait trois fois plus.
C'est un œuf de poule.
Alors, c'est un œuf de quoi? Je vais vous le faire voir. Mais...
Un œuf de poule, sans doute, non?
Oui, c'est un œuf de poule, un banal œuf de poule derrière un fond blanc.
Bon, ben merci voilà. Bastien pour...
L'œuf a détrôné la sœur de Kim Kardashian. C'était l'actualité primordiale.
Effectivement. Merci, ça, c'est bien pour terminer cette émission. Alors, on rappelle que dans l'actualité, c'est la sortie du web documentaire de l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes pour expliquer ce territoire des Causses et des Cévennes et en comprendre un peu son fonctionnement au travers du regard des paysages, des hommes et des troupeaux, hein, c'est ça?
C'est ça.
Donc à retrouver sur causses au pluriel -et-cévennes.fr, voilà.
Tout juste.
Et puis voilà, plein d'actions qu'on peut suivre aussi sur ce site, les actions de l'entente. Merci beaucoup à vous deux d'être venus.
Et sur notre page Facebook, puisqu'on a aussi des réseaux.
Ah, j'espère que vous ferez mieux que l'œuf. Regardez, il est là.
Il faut qu'on essaye avec une brebis.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. C'était un agréable moment.
Voilà, et donc cette émission sera rediffusée jeudi à 19h, mardi à 12h30. Et bien donc, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux aussi pour retrouver les adresses et les articles dont on a parlé aujourd'hui. À bientôt,
merci,
bonne quinzaine.
Loz Actualité.